Rien? Bon.
Alors, donc sur l'écologie, il y a la pollution culturelle des réseaux sociaux et l'écologie des esprits qui est peut-être en transition entre l'écologie et la pollution culturelle. Moi j'aimerais bien que vous me parliez du problème de spoil américain en fait, qui est un problème européen mais qui est un problème américain, qui est la copie conforme. Qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là, qu'est-ce qu'on n'a pas vu venir et qu'est-ce qui est en train de se mettre en place?
Bon, ma position de base, quand je dis la mienne, c'est aussi celle d'Ars Industrialis aujourd'hui, en particulier sur la question de ce qu'on appelle la culture, c'est que il y a un énorme malentendu sur ce sujet, en France en particulier et en Europe généralement. Il y a d'une part un énorme malentendu et d'autre part une mécompréhension historique du problème. Je vais commencer par la mécompréhension historique du problème. La culture, ici, en France par exemple, c'est l'objet plutôt du ministère de la Culture. C'est le sujet d'une revendication des gens de ce qu'on appelle le monde de la culture, les artistes, les intellectuels. Par exemple, pendant très longtemps, on a dit le 1% culturel, la démocratisation culturelle. Je pense que c'est une façon extrêmement étriquée et archaïque de poser le problème de la culture aujourd'hui. Le problème de la culture aujourd'hui, il faut, pour bien le poser, commencer par comprendre que le XXe siècle, dans la guerre économique capitaliste qui a caractérisé le XXe siècle, surtout la deuxième moitié du XXe siècle d'ailleurs, parce que malheureusement la première a été marquée par des guerres non pas économiques mais militaires, le XXe siècle a été essentiellement une guerre culturelle du capitalisme. La culture, pour l'Amérique du Nord par exemple, ça n'est pas du tout une dimension annexe, patrimoniale et mineure de la vie publique, c'est le cœur même de la vie du capitalisme. Mais évidemment, cette culture, il faut l'entendre dans un sens très large, qui est aussi bien la fabrication des modes de vie par le marketing que le développement de Hollywood. Et que le leadership de New York, à un moment donné, dans l'art moderne et contemporain. Tout ça n'étant pas des choses séparées, contrairement à ce que croient des esprits un peu, comment dire, qui résonnent de manière un peu traditionnelle. Moi, j'ai été très très frappé lorsque, lisant un livre de Jean-Michel Frodon, que je cite très souvent, qui s'appelle « La production nationale, cinéma et nation », Frodon a mentionné ce fait extraordinaire qu'en 1912, à Washington, un sénateur américain dit « le commerce suit le film » et que le commerce est pensé à partir d'une politique du cinéma aux États-Unis dès la première décennie du XXe siècle. Et que par ailleurs, au moment où Henry Ford construit ses usines, où il va mettre en œuvre les technologies de production inspirées par Taylor et toute ce qu'on appelle l'organisation scientifique du travail, les studios de Hollywood se construisent pour produire ce qu'on appelle The American Way of Life, c'est-à-dire une certaine façon de promouvoir la vie en automobile, et pas simplement en automobile, tout le mode de vie américain. Ça, c'est une politique culturelle qui fait de la culture le fer de lance de sa politique économique.
Une sorte de propagande.
Pas seulement de propagande, de transformation des modes de vie. Dans un langage que j'affectionne et que j'utilise pas simplement par affection, mais par nécessité en philosophie, de précision technique de la parole et des concepts, j'appelle ça un processus d'individuation psychique collective. C'est la configuration d'un nouveau type d'individuation psychique collective, c'est-à-dire d'un nouveau type de transformation des modes de vie. Les sociétés se transforment en permanence. Certaines se transforment très lentement, comme les sociétés préhistoriques. Certaines se transforment extrêmement vite, comme nos sociétés. Entre les deux, il y a toute une gamme de nuances. Mais dans tous les cas, la société n'arrête pas de se transformer.
C'est-à-dire, c'est quoi ? C'est que le cinéma, dans sa force hollywoodienne, a un vrai impact sur les gens, c'est que ça transforme, c'est quoi ? Il s'identifie et du coup, il se transforme au travers de ça. C'est quoi le...
Bien entendu que quand on va voir un film, on s'identifie, en effet, il y a des processus d'identification au sens très classique du terme, c'est-à-dire je m'identifie à un personnage, par exemple, et à travers l'identification à ce personnage, je vais m'identifier au mode de vie de ce personnage, et à travers ce mode de vie, éventuellement au mode de vie américain. C'est ça la politique américaine du cinéma. Et lorsque, après la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis décident de reconstruire l'Europe à travers le fameux plan Marshall, mais conditionnent l'attribution de leurs aides financières à la reconstruction, au fait qu'un certain nombre de films américains, de journaux américains, etc., de radios américaines sur le territoire européen, c'est évidemment la poursuite de cette politique qui a commencé dès les années 1910. Pour l'Amérique du Nord, défendre Hollywood, par exemple, ou pas simplement Hollywood aujourd'hui, maintenant Internet, et une certaine conception d'Internet, parce que chez les Américains, la culture, c'est d'abord une question de technologie. La culture est toujours liée à des techniques ou à des technologies. L'Amérique du Nord, au XXe siècle, fait de sa politique industrielle une politique culturelle à l'intérieur de laquelle elle va prendre le leadership culturel mondial à travers la musique. C'est évident. Il y a bien entendu les Beatles qui sont anglais, mais, ou les Rolling Stones, mais fondamentalement, il y a un leadership mondial de l'Amérique du Nord sur la musique, en particulier ce qu'on appelle la musique populaire, qui est souvent d'ailleurs une musique industrielle plutôt populaire, d'où est-ce qu'elle vient ? D'une appropriation extrêmement forte par le monde du jazz, par le rock, etc. Des techniques du phonographe, du magnétophone, de la radio, des modes de production. Enfin, c'est un monde très très technologisé, très industrialisé, qui se développe là, avec une efficacité fabuleuse. Et des choses, parce que souvent on regarde ça d'un air un peu hautain, nous les Européens, en disant « Oui, mais ça ne produit que finalement de la sous-culture. » Bon, pas du tout. Charlie Parker, c'est pas de la sous-culture. Charles Ives, qui, à mon avis, procède aussi de ça, c'est pas de la sous-culture. Le cinéma hollywoodien, c'est pas de la sous-culture. Maintenant, il y a du très mauvais cinéma hollywoodien, mais John Ford, qui est un des plus grands cinéastes d'Hollywood, c'est absolument génialissime.
Qu'est-ce qui s'est passé en Europe ? C'est-à-dire, nous, on a créé de la culture sans s'en rendre compte ou sans y penser ou...
Non, bien sûr que non. Mais en Europe, il se passe beaucoup d'autres choses. Il se passe Walter Benjamin, il se passe André Malraux, il se passe l'école de Francfort, etc. Mais simplement, il y a des gens qui pensent, donc du côté des philosophes, qui pensent toutes ces questions. Mais l'Europe a un héritage culturel tout à fait différent. Elle a un héritage culturel qui procède de, appelons ça, du pouvoir monarchique, du mécénat princier, et d'une culture d'inspiration d'abord aristocratique, ensuite bourgeoise, qui vient fondamentalement de la société où ce que j'appelle moi l'ossium et le négocium étaient structurellement séparés. C'est-à-dire où d'un côté il y avait des clercs, des gens qui ne travaillaient pas du tout pour la production, qui étaient des intellectuels, qui étaient des artistes, qui étaient éventuellement des religieux aussi, et qui produisaient ce qu'on appelait le monde du symbolique. Et puis de l'autre côté, il y avait la roture. Et tout ce qui était du côté de la production des subsistances, du renouvellement des stocks de protéines, etc. Et ces deux mondes étaient structurellement séparés, et pour une part, ils le sont encore beaucoup dans notre société. Ils le sont encore beaucoup. Aux États-Unis, ça n'a plus aucun sens. Lorsque Benjamin Franklin fait ses sermons, et prend la figure du calvinisme comme un modèle de réorganisation de la société et invente ce que Max Weber avait analysé comme la figure du capitaliste américain. Ces oppositions entre ossium et négocium n'ont plus de sens. Moi, ce que je crois, c'est que ce qui a fait la puissance du développement de l'Amérique du Nord au XXe siècle, C'est pas l'armée américaine. C'est pas le dollar américain. C'est pas la science américaine. C'est la politique culturelle américaine. Bien entendu que la force de l'armée américaine est immense, que la puissance du dollar, aujourd'hui le dollar n'est plus très fort au sens de l'évaluation des taux de change entre l'euro et le dollar, mais ça reste la monnaie de référence, dans tous les cas. Bien entendu, tout ça sont des éléments de puissance fondamentaux de l'Amérique du Nord, mais ce qui est la vraie puissance de l'Amérique du Nord, c'est qu'elle donne le « là ». En termes de comment le monde se transforme. Et c'est encore elle qui en est là. Peut-être plus pour très longtemps, parce que l'Asie est en train de monter en puissance. Mais comment est-ce qu'elle a pu développer ça? À travers une politique culturelle, qui est aussi une politique technologique et industrielle. En disant cela, je ne suis pas du tout en train de dire qu'il faudrait que nous, les Européens, nous nous mettions à faire comme les Américains. Et je ne suis pas en train de le dire pour deux raisons. D'abord parce que ce serait une erreur tactique fondamentale, parce que faire comme les Américains, c'est forcément se vassaliser, c'est essayer de les imiter et d'adopter leur modèle, qu'ils conduisent forcément beaucoup mieux que nous, puisque c'est leur modèle. Donc c'est nécessairement être à la traîne. C'est un petit peu ce qui se passe avec la Commission européenne depuis 20 ans maintenant, 15 ans. Et donc on ne peut être que perdant. Mais deuxièmement, et je dirais que c'est bien plus important ce deuxièmement, parce que premièrement, on pourrait dire, mais de toute façon, c'est comme ça. Ça a été comme ça, finalement, depuis pas mal de temps maintenant. Et bon, ça a plus ou moins bien fonctionné comme ça. Eh bien, le deuxièmement, c'est que justement, ça ne fonctionne plus, y compris aux États-Unis. Ce modèle, qui a été développé par l'Amérique du Nord, qu'on va appeler le modèle des industries culturelles, qu'elle a analysé Adorno en 1944 avec Horkheimer, c'est un modèle qui ne fonctionne plus. Parce que ce modèle, qui a pendant longtemps produit une très très grande efficacité économique et culturelle, une puissance culturelle américaine énorme, qui était en réalité, je l'ai beaucoup développé dans mes livres, une organisation de l'économie libidinale, c'est-à-dire de la manière dont on canalisait l'énergie libidinale, c'est-à-dire le désir des individus vers les marchandises, via la culture. Et ça a fonctionné. Et ça a fonctionné pendant longtemps avec une certaine efficacité symbolique qui produisait une véritable nouvelle organisation de l'économie libidinale. Pourquoi est-ce que pendant... Moi, je me souviens quand j'étais gamin, 80% des gens disaient le mode de vie américain, c'est ce qu'on veut adopter, on voudrait partir en Amérique, pays de la liberté. C'était vraiment quelque chose, y compris, il y avait beaucoup de communistes qui disaient le contraire de ça, mais en réalité, ils étaient fascinés aussi par l'Amérique. À commencer par moi, j'étais membre du Parti communiste à cette époque-là, mais je lisais les romanciers américains, j'écoutais le jazz des noirs américains, j'admirais la peinture américaine. J'étais fasciné par le modèle américain. Totalement fasciné, je le combattais, mais dans une espèce de fascination. Et je pense qu'on était très nombreux à ce temps-là. Aujourd'hui, c'est plus le cas. L'Amérique n'est plus admirée, elle n'est plus désirée. Elle est beaucoup plus haïe maintenant, en particulier depuis la guerre de l'Irak et depuis Bush, mais c'est pas simplement depuis Bush. Ça a commencé depuis plus longtemps. Parce que ce modèle qui a consisté à faire de la culture une arme dans la lutte économique, et autrement dit, à mettre la libido au cœur de l'économie libidinale, au cœur de cette organisation industrielle, pour capter l'attention des individus et leur faire acheter de la marchandise, parce que c'est ça le but, pour résoudre, autrement dit, le problème de la baisse tendancielle du taux de profit, c'est-à-dire le fait que le capitalisme est toujours en surproduction, et que donc toujours canaliser l'énergie libidinale des individus pour les faire consommer de manière de plus en plus absurde en réalité. Ce modèle est arrivé à son point de saturation, pour de très nombreuses raisons. D'abord des raisons intrinsèques à la libido, c'est-à-dire que la libido, quand elle est canalisée, standardisée, comme c'est le cas avec les industries culturelles, elle finit par se délibidinaliser. Pour une raison très simple, qui est que l'objet du désir est un objet singulier. Une politique d'industrialisation de la captation de la libido conduit à une désingularisation de la libido, donc à une destruction de la libido. Résultat, la libido se transforme, ce que j'appelle de la pulsion. Ce que je dis là n'est qu'une analyse actuelle et une réactualisation des analyses de Freud. Alors, rien de très original, mais...
Personne ne le dit, personne ne travaille dessus.
Ça commence à venir. Du côté des psychiatres et des psychanalystes, ça commence à venir beaucoup.
Qu'est-ce qu'on fait en Europe par rapport à ça? Je ne sais pas, dans tous les clubs, tous les endroits où on va, les mecs de 20 ans, là, c'est juste dramatique. Il y a une compétition avec MTV en termes d'esthétique. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on peut casser ça?
Avant de répondre à cette question, je continue juste sur mon balancé. Moi, je crois que ce modèle, il conduit à la ruine parce qu'il produit de ce que j'appelle de la désindividuation, où les individus, progressivement, perdent toute capacité. Symbolique, toute forme de savoir. Ils sont progressivement transformés en de purs consommateurs, qui ne font plus que recevoir les choses sans être capables du tout d'en produire. Et du coup, ils perdent toute possibilité de reconnaissance sociale, à commencer par eux-mêmes, leur narcissisme ne s'y retrouve plus, leurs proches, leurs enfants, leurs parents ne les reconnaissent plus. Ils sont, c'est ce que j'ai appelé, prolétarisés sur le plan de la consommation. Pourquoi? Parce que de plus en plus, le marketing prend en charge tous nos modes de vie, se substitue à notre capacité à inventer notre existence, et finalement fait de nous des êtres consciemment passifs, dont la télévision est une espèce d'état de fait que tout le monde a constaté maintenant, et tout le monde voit comment la télévision s'en trouve gravement dégradée, avec des programmes qui sont devenus absolument insupportables, abominables, que les gens qui les regardent ont honte de regarder, mais qui les regardent quand même, parce qu'il n'y a plus que la télévision, et qu'à partir du moment où ils ont désappris à parler avec leurs conjoints, avec leurs enfants, ils ont désappris à être des individus qui ont une vie sociale riche, des amis qu'ils invitent à bouffer, parce qu'ils ne savent plus faire à manger, parce qu'ils ne savent plus avoir une conversation avec des amis, eh bien la télévision, c'est ce qui vient combler le vide énorme qui a été créé par tout ça. Cette situation est devenue intolérable. Elle est devenue intolérable aussi pour d'autres raisons, qui sont des raisons, rappelons-les, celles que René Passet, par exemple, a décrites dans L'économique et le vivant, en montrant que ce système, par ailleurs, qui est un système d'hyperconsommation, produit tout ce qu'on constate maintenant, l'épuisement des ressources énergétiques, la saturation de la pollution dans l'atmosphère, les problèmes du changement climatique. Passet a parlé de ça il y a déjà 20 ans, en disant que le système économique allait s'écrouler là-dessus. Il y a 3 mois, M. Stern, grand expert économiste anglais, a publié le rapport Stern en disant ces problèmes-là vont engendrer des catastrophes économiques énormes. Cette fois-ci, c'est devenu officiellement, non pas du tout de la part de Greenpeace ou de mouvements écologistes, mais officiellement par des organismes internationaux de prescription d'organisation économique, c'est devenu officiellement un problème majeur. Bon. Par ailleurs, il y a les difficultés qu'on appelle, à mon avis, à tort, identitaires, qui produisent, par exemple, des phénomènes nationalistes, intégristes, etc. Par ailleurs, il y a les phénomènes de désespérance politique qui font que peut-être bien que M. Le Pen va encore faire un carton aux élections. Bref, on est dans une situation de crise, voilà ça. Il y a aussi, outre cela, ce qu'on appelle la crise de la démocratisation de la culture, le grand blues des élites intellectuelles et du monde artistique, l'espèce de vraisemblable effondrement du modèle culturel français, un épuisement de tout ce qu'on a pu dire sur l'exception culturelle, etc. Bon, on voit bien qu'on est dans une situation tout à fait nouvelle, très très angoissante. Alors, par rapport à ça, eh bien, il y a tout à fait, effectivement, la possibilité de modifier la situation. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, je parlais de l'Amérique du Nord tout à l'heure en parlant de Hollywood, j'aurais pu parler de la radio, de la télévision, peu importe. En 1992-93, l'Internet public est apparu, ARPANET est devenu, qui était déjà accessible aux universitaires américains et d'ailleurs du monde entier, parce qu'elle a commencé à se faire au-delà des États-Unis, tout à coup un service public, mondial, gratuit. Quand je dis un service public, c'est évidemment en un sens très particulier, créée par les États-Unis, parce que c'est l'Amérique qui a lancé cette affaire. Et on voit bien comment tout à coup le monde s'est reconfiguré très très profondément autour de ce réseau Internet. Ça a été une politique au cœur de la politique américaine portée par Bill Clinton et Al Gore.
Et vous parlez même de nouvelles révolutions industrielles dans ce sens.
Oui, une nouvelle révolution industrielle qui s'est produite, il n'y a pas que moi qui en parle, hein, beaucoup de gens parlent de la troisième révolution industrielle, de ce qu'on appelle les technologies de l'information, etc. Mais ce que je crois, moi, c'est que le monde d'Internet, et le monde d'Internet, c'est pas seulement Internet, Internet c'est une norme en réalité, c'est une norme qui compatibilise énormément de choses aujourd'hui, d'abord des réseaux, mais maintenant des objets, et demain, à peu près tout ce avec quoi nous allons vivre et travailler va être appareillé par des dispositifs technologiques qui passeront de près ou de loin par le réseau Internet. Ce réseau Internet, il s'y passe maintenant beaucoup, beaucoup de choses. En particulier, je dirais, dans la frange des moins de 35 ans, qui passe de plus en plus de temps sur ce réseau. Et on dit que les moins de 20 ans ou les moins de 15 ans sont beaucoup plus maintenant sur Internet ou sur d'autres supports ou médias que sont les jeux vidéo, que sur la télévision et les médias de masse. Ça, c'est très, très important. C'est très, très important parce que ces grands médias de masse, qui se sont imposés au XXe siècle et qui ont reconfiguré toutes les pratiques culturelles, y compris au théâtre ou au musée. Parce que les gens qui vont dans les musées et dans les théâtres, ils sont programmés par les industries culturelles. Donc leurs comportements, leurs attentes et tout ça sont surdéterminés par la radio, par la télévision, toutes ces choses-là. Donc même quand on est un metteur en scène de théâtre, par exemple, qui n'a aucun rapport avec la radio et la télévision, et qui ne veut en avoir aucun, dans tous les cas, notre public, lui est surdéterminé par ça. Donc la télévision et la radio pénètrent toutes les pratiques culturelles, qu'on le veuille ou pas. Ces médias de masse, ils ont installé un modèle qui relève de ce que j'ai appelé la dissociation. C'est-à-dire qu'il repose sur le fait que je suis un consommateur et je ne suis pas un producteur. Je suis un destinataire et je ne suis pas un destinateur. Je suis infantilisé par ces médias, d'ailleurs. Je me retrouve dans une situation où je ne fais qu'écouter, regarder, où je ne peux pas, exister en tant qu'individu, autrement que de manière totalement passive. Et bien ça, c'est ce qui est en train de se transformer depuis déjà 15 ans avec Internet. C'est tout à fait différent. Ce qui se passe sur Internet, c'est que un internaute, c'est un destinateur tout autant qu'un destinataire. Je dirais même plus un destinateur qu'un destinataire. C'est avant tout, Internet, c'est avant tout un média sur lequel on est actif. D'abord, on est actif en cherchant. On prend l'initiative de chercher des choses. On est dans ce qu'on appelle une technologie pool, c'est-à-dire nous qui prenons l'initiative. Les choses ne tombent pas dessus comme un déversoir qui est la grille de programme de TF1 ou Arte. Mais c'est nous qui prenons l'initiative. Et en plus, non seulement nous allons chercher des choses, mais nous pouvons envoyer des choses, nous pouvons reconfigurer des choses. C'est un milieu associé et non pas un milieu dissocié. Les médias de masse analogiques, c'était des médias de dissociation qui conduisaient inévitablement à une destruction du milieu symbolique. Parce que les milieux symboliques, ce sont des milieux associés. Quand on parle, par exemple, quand on parle à quelqu'un, on lui parle en posant a priori qu'il va nous répondre, qu'il est en position de nous répondre, qu'il ne peut nous écouter, nous comprendre, nous entendre, que dans la mesure où il est susceptible de nous parler, de nous interpeller. Et ça, c'est la structure dialogique, comme l'appelait Bakhtin, du langage, ou dialectique, disait Platon. Et c'est ce qui fait que le symbolique est un processus d'échange bidirectionnel, toujours. Les grands médias industriels de la culture du XXe siècle ont cassé. Et ça a permis ce que nous appelons une société de contrôle. Mais les nouveaux médias, en particulier les médias type Internet, permettent de renouer avec un vrai milieu symbolique. Ça ne veut pas du tout dire, quand je vous dis ça, que je crois que miraculeusement ou merveilleusement, le milieu Internet va reconstituer un milieu symbolique. Pas du tout, parce que ce milieu est potentiellement susceptible de produire ça, mais on peut aussi totalement l'instrumentaliser pour faire un autre milieu dissociant beaucoup plus efficace. C'est évidemment les stratégies que poursuivent les grands médias de masse.
Et c'est l'enjeu aujourd'hui.
Et c'est tout l'enjeu. Et là, le monde de la culture, le monde des artistes, le monde des intellectuels a une responsabilité historique. il faut absolument que ce monde-là se mobilise pour inventer un nouveau milieu symbolique, une nouvelle pratique culturelle qui tire parti de cette situation inédite et qui permet de véritablement mener une lutte contre les processus massifiants des industries culturelles de masse. Et il faut que ces artistes, ces intellectuels, ces militants, ces publics tout simplement, ces amateurs, imposent au monde politique, et en particulier au monde politique français européen, de développer une vraie politique industrielle. Parce que ce sont des questions technologiques, donc industrielles, qui se posent là. Et imposent en particulier au pouvoir public de mettre en place une politique culturelle qui donne les moyens de configurer des pratiques culturelles nouvelles, non pas en laissant TF1 ou Skyrock ou Canal+ imposer des modèles qui ne peuvent être que des modèles à très court terme, dans une guerre économique qui se mène entre ces médias-là et des médias étrangers, ou d'autres acteurs économiques qui peuvent chercher à s'implanter comme le réseau des secteur des télécommunications, ou tant d'autres acteurs, parce qu'il y a ce qu'on appelle aujourd'hui les nouveaux entrants. Chaque fois qu'il y a une nouvelle technologie qui apparaît, il y a de nouveaux acteurs qui cherchent à s'imposer. Par exemple, France Télécom en ce moment cherche à devenir un pourvoyeur de VOD et à se substituer aux industries de programme. Pourquoi ? Parce que les industries de programme sont déstabilisées par la VOD, par le podcasting, etc. C'est très important le podcasting. Le fait que les gens puissent écouter maintenant la radio et bientôt regarder la vidéo en sortant des grilles de programme avec des médias de podcasting, ça casse l'industrie de programme qui reposait sur la grille de programme. Et les nouveaux entrants comme les télécoms cherchent à s'y immiscer.
Comment on impose à ces gens-là ? Parce qu'il n'y a pas de solution. Pour mettre en place des systèmes, il faut. Le nerf de la guerre, c'est toujours l'argent.
Mais
si les idées, c'est beau, c'est bien.
Mais il faut que les pouvoirs publics. Il faut obliger les pouvoirs publics à mettre en œuvre des vrais programmes dans ces domaines pour donner des moyens à imposer. Moi, par exemple, je dis. Le nouveau président ou la nouvelle présidente de la République devra d'abord revoir complètement le CSA en disant ça suffit à CSA qui ne fait pas du tout son travail parce qu'il ne fait pas du tout respecter le cahier des charges. Déjà en soi, c'est absolument scandaleux. Deuxièmement, il faut revoir en profondeur sa cahier des charges qui sont complètement hypocrites. Cahier des charges qui repose sur des missions dont on sait très bien que les industries programmes ne les mettent pas en œuvre. Mais surtout, et troisièmement, il faut dire maintenant les médias. Les médias généralistes, il faut les obliger à développer des secteurs nouveaux médias en les soumettant à des canaux très précis, en les obligeant en particulier à faire de la recherche-développement, à accueillir des artistes, à accueillir des gens du monde de la culture, des enseignants, pour créer de vrais services nouveaux, parce qu'avec ces médias-là, il est tout à fait possible de produire l'intelligence collective, il est tout à fait possible de reconstituer une vraie politique culturelle de masse, qui ne soit pas vulgaire, qui ne soit pas avilissante, mais au contraire. Parce que les gens le veulent, les gens sont désireux de voir ce genre.
Mais ça c'est génial, en même temps c'est dangereux pour le pouvoir qu'on s'ouvre sur l'intelligence collective, des choses comme ça. Enfin, moi je sais pas, je comparais ça au l'effet de produire une drogue sur les gens ou les LSD, c'est-à-dire cette capacité tout à coup de réfléchir sur soi, de se voir en miroir un peu déformé, de poser des questions, c'est dangereux pour le pouvoir. Et surtout ce que je veux dire, c'est que ça c'est super beau, mais alors on est mal barré. Parce que les 3 ou 4 présidentielles qui sont normalement par rapport aux autres n'ont aucun discours par rapport à ça.
Oui, mais tant pis, il faudra les obliger. De toute façon, vous savez.
Comment on oblige ces trucs ?
Mais en se mettant à faire de la politique, et une vraie politique, pas en répétant éternellement la même chanson qu'il faut défendre les intermittents du spectacle. Bien sûr, je suis d'accord pour défendre le statut des intermittents. Mais c'est pas là que se fera le combat. Ça, c'est un moyen. Ce qui est très important, c'est de reconstituer une vraie pensée politique. Il faut arrêter de dire que Ségolène Royal, Nicolas Sarkozy, peut-être François Bayrou n'ont pas de politique. C'est vrai, il faut le dire, bien sûr. Mais si on dit ça et qu'on n'en dit pas plus, on ferait mieux de se taire. Parce que c'est à nous de produire une politique. C'est-à-dire que s'ils n'ont pas de politique, c'est pas. Vous savez, ces gens-là, ce ne sont jamais que des catalyseurs des propositions de la société. Si la société n'a pas de proposition, ils ne peuvent pas en avoir. Donc, alors après, moi je pense que M. Sarkozy a une politique et personnellement je la combats. Et je pense que, personnellement, je pense que malheureusement, Ségolène Royal n'a strictement aucune politique et je combats le fait qu'elle n'en ait pas. Et j'espère que François Bayrou va peut-être essayer, parce que finalement c'est le seul à avoir dit des choses contre les médias de masse, etc. De manière claire.
Mais c'est pareil, il récupère un discours, il n'y a pas de politique.
Non, mais bien entendu. Mais bien entendu. Donc c'est à nous. C'est à nous.
C'est qui nous?
Ben, nous, c'est monsieur tout le monde. C'est tous les gens qui, non seulement votent, il faut voter, mais l'essentiel, c'est pas tellement de voter. C'est de penser, c'est d'agir, c'est de se mettre ensemble. C'est à nous de faire quoi? Non pas de nous opposer simplement à ces personnes, mais de leur proposer des choses. Et vous dites, c'est pas l'intérêt du pouvoir de produire des gens collectifs. Je suis pas du tout d'accord avec vous. L'intérêt du pouvoir aujourd'hui, c'est de sortir la société de la situation catastrophique dans laquelle elle est, en France, en Europe et dans le monde entier. Nous savons très bien que le mode de vie, et en particulier le modèle industriel tel que nous l'avons connu, si jamais la Chine et l'Inde l'adoptent, le monde disparaît dans les 50 ans qui viennent. C'est une catastrophe, même pas dans les 50 ans qui viennent, parce que ça conduira de toute façon à des conflits sur l'accès à l'eau, à l'énergie. Ça conduira forcément à un conflit militaire gravissime. Donc il est impossible de continuer dans ce modèle. En même temps, on n'a pas de modèle alternatif connu. Eh bien, c'est à nous de commencer à l'inventer. Et il y a des gens dans le monde de l'entreprise, il y a des gens dans le monde de la banque. Jean-Luc Gréau, par exemple, c'est un homme qui était avant conseiller de M. Denis Kessler, qui était lui-même conseiller d'Ernest-Antoine Seillière, c'est-à-dire du MEDEF. Jean-Luc Gréau a publié un livre l'année dernière, chez Gallimard, qui s'appelle « L'avenir du capitalisme », dans lequel il dit « ça n'est plus possible de fonctionner comme ça ». Le capitalisme financier qui ne marche qu'à très court terme ne peut plus marcher comme ça. Il faut remettre du long terme. Alexandre Adler, sur deux, trois fois de suite, fait des chroniques sur France Culture. Alexandre Adler, qui est passé du côté du Figaro, et d'une pensée libérale et tout ça, dit « il faut remettre du long terme, il faut repenser une politique à long terme ». Il y a 3 ou 4 jours, dans le Monde, un député de l'UMP et un député du Parti Socialiste ont co-signé un article qui dit qu'il faut relancer une politique industrielle européenne. Il y a une prise de conscience qui est en train de se faire. Il faut maintenant que la société réponde à cette prise de conscience et que ceux qui inventent, et qui inventent en particulier des modèles collaboratifs, où on n'est plus dans le producteur d'un côté, le consommateur de l'autre, mais on est dans des modèles où finalement, moi j'appelle ça des communautés d'amateurs, sur le même modèle qu'open source, sur le même modèle que Linux, sur le même modèle que ce que Pekka Inmalen, qui est un philosophe finlandais, développe, à savoir ce qu'il appelle l'éthique hacker, où il dit il y a là des nouvelles relations sociales qui se constituent, où les gens sont là essentiellement pour partager du savoir, pour produire de l'individuation collective en utilisant les possibilités de ces technologies. Il y a là des choses très très importantes, extrêmement fécondes, qui en plus sont des modèles économiques, pas simplement des modèles relationnels, et qui peuvent être étendus à toutes sortes d'activités, y compris dans le domaine du marketing, y compris dans le domaine de la vie industrielle. Là, les artistes, les gens de la culture, les intellectuels doivent absolument se mobiliser. C'est extrêmement excitant. Ce sont des possibilités véritablement totalement inédite, c'est un nouveau monde industriel qui se constitue, parce que ce sont des technologies de rupture par rapport aux technologies qui étaient dissociantes, et celles-ci sont des technologies associatives. C'est un monde qui est d'un dynamisme extrême, et il faut, aux États-Unis, à San Francisco, etc., il y a énormément de gens qui travaillent là-dessus, il faut que les Européens se mettent à travailler là-dessus, et en développant les modèles européens, je veux dire les spécificités de la culture européenne, mais non pas en disant on va protéger avec le 1% culturel, avec le statut des intermittents, etc., une espèce de réserve d'Indiens acculturés, quand il y a 99% de la société qui est totalement déculturée. Ça suffit de fonctionner comme ça. Ça suffit de faire de la culture pour finalement de plus en plus des gens qui sont eux-mêmes des acteurs culturels. Non, il faut repenser la société. Il faut le faire sans complexe, il faut le faire sans crainte.
Pourquoi la culture, c'est important?
Comment ça, pourquoi la culture?
Pourquoi la culture, c'est important?
Parce que le désir, est... qu'est-ce que c'est que la culture? Qu'est-ce que c'est qu'on appelle la culture? La culture, ça a plusieurs sens. Ça a un premier sens qui est, je dirais au sens des anthropologues, les modes de vie, au sens où j'en parlais tout à l'heure. Donc c'est la façon dont on organise les modes de vie. Si par exemple on dit il faut baisser la production de CO2, c'est un problème culturel d'abord. Vous comprenez? Pourquoi est-ce que les gens achètent des... ceux qui ont de l'argent, achètent des trucs qui consomment 15 litres au 100 avec 8 cylindres? Il y a 3 jours, j'étais dans un taxi et le type me dit « Oh là là, vous avez vu cette Mercedes 8 cylindres, on ne sait pas quoi, 40, 4 litres de cylindre. Bon, je l'ai écouté, je l'ai laissé parler, moi ça m'intéresse toujours d'écouter les gens. Et je pensais, 8 cylindres, combien ça produit de CO2 ce machin, quoi. Bon. Mais comment se fait-il qu'il y ait des gens, c'est une bagnole qui devait coûter 500 000 balles, au moins, comment se fait-il qu'il y ait des gens qui mettent tellement d'argent dans des voitures qui ont aussi laides, parce que par ailleurs elles sont extrêmement laides, surhaussées, la rehaussées, comme on dit, avec des énormes pneus, enfin, ce sont des catastrophes écologiques ces bagnoles. Comment se fait-il que des gens, qui sont évidemment des gens qui ont de l'argent, qui sont, mettent leur argent là-dedans, plutôt que mettre ce fric pour éduquer leurs enfants, pour leur... parce que les enfants sont quand même extrêmement menacés. C'est parce que leur vie est vide, et qu'ils ont besoin de combler avec des trucs de plus en plus, chaque fois de plus en plus énormes. Et en même temps, ça ne fait qu'aggraver le vide de leur existence. Ils sont malheureux. Parce que les enquêtes de marketing le font apparaître. Ce qu'on appelle les alter-consommateurs, et tout ça, ce sont des gens qui sont des super-consommateurs malheureux. C'est un problème culturel. Pourquoi est-ce qu'ils sont malheureux? C'est parce qu'ils symbolisent plus, ça renvoie à ce que je disais tout à l'heure. Si on veut changer leur comportement, il faut leur redonner accès à une satisfaction, ça veut dire. Donc c'est un problème culturel. C'est un problème culturel au sens du comportement, de ce que les anthropologues appellent, de ce qu'on appelle le culturalisme. Cela dit, la culture, ce n'est pas simplement les comportements. La culture, c'est l'exceptionnel, c'est l'extraordinaire. Shakespeare, c'est la culture. Léonard de Vinci, c'est la culture. Pablo Picasso, c'est la culture. Charlie Chaplin, c'est la culture. Marcel Proust, c'est la culture. Emmanuel Kant, c'est la culture. Pourquoi? Ce sont des êtres d'exception. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce sont des êtres qui élèvent les autres en allant toujours plus loin. Ils envoient le javelot plus loin, comme disait Nietzsche. Élevés. Pourquoi élevés? Nous, les êtres humains, nous sommes... Moi, je pose que nous vivons, je ne suis pas le seul, nous vivons sur trois plans. Comme les escargots. Comme les cochons. Les trois petits cochons. Et comme les macaques. Nous vivons sur le plan de la subsistance, c'est-à-dire que nous avons besoin de satisfaire des pulsions. La soif, la faim, l'agressivité, la reproduction sexuelle, etc. Mais ça, nous le partageons avec tous les êtres sexués dotés d'un système nerveux. Et même les êtres non sexués. Les paramécies ne sont pas sexués, mais elles ont un système nerveux, elles réagissent. Nous partageons ça avec tous les êtres vivants dotés d'un système nerveux. Et nous avons ce système nerveux à quoi est-ce qu'il nous sert? À satisfaire nos besoins de subsistance. Du sucre, des molécules d'eau, de l'oxygène. Deuxièmement, nous existons. Nous les êtres humains. Qu'est-ce que ça veut dire que nous existons? Ça veut dire que nous sommes existés, ça veut dire que nous nous tenons hors de nous-mêmes. Sistere, ça veut dire se tenir. Exister, ça veut dire se tenir hors de soi. Par exemple, parler, c'est exister. Travailler, c'est exister. Parce que travailler, c'est produire des choses hors de soi, laisser des traces, transformer le monde. L'existence, elle est beaucoup vouée à la subsistance. C'est-à-dire que nous travaillons pour vivre, pour manger, je veux dire, pour satisfaire. Mais nous ne travaillons pas seulement pour ça. Nous travaillons toujours pour autre chose que la satisfaction de nos subsistances. Ou quand ce n'est pas le cas, Marx dit, nous sommes devenus des prolétaires. C'est-à-dire nous ne sommes plus là que pour renouveler notre force de travail et nous n'avons plus la possibilité du tout d'exister. À ce moment-là, nous sommes pratiquement des bêtes. Marx disait, à partir du moment où nous sommes des bêtes, nous ne pouvons pas supporter ce mode de vie, donc nous faisons la révolution. C'est à cause de ça qu'il croyait que le prolétariat était révolutionnaire. Il s'est trompé pour des raisons que je ne vais pas expliquer maintenant. Dans le travail, nous ne cherchons pas simplement à subsister ou à exister, c'est-à-dire... Nous cherchons à atteindre, par le travail, des choses qui relèvent de ce que j'appelle la consistance. À savoir des choses qui n'existent pas. Nous cherchons des choses idéales. Par exemple, nous allons travailler à essayer de construire une cathédrale. Nous sommes maçons. Un maçon, c'est un travailleur. Hein. Mais ce maçon, il va chercher à construire quelque chose qui s'élève et qui est beau. Et qui renvoie vers quoi? Vers un autre plan. Moi j'appelle ça un autre plan. Ça va être le plan des bâtisseurs de cathédrales du XIIIe siècle. C'est un plan qui n'existe pas. Eux, ils appellent ça Dieu. Mais ça peut être aussi le plan de, chez les francs-maçons, ça peut être le plan non pas de Dieu, mais de la géométrie, des idéalités mathématiques. Ça n'existe pas, les idéalités mathématiques. Le point géométrique n'existe pas. Il n'est pas dans l'espace, il n'est pas dans le temps. Il est purement idéal, il est purement conceptuel. Et c'est ça qui fait fonctionner le franc-maçon. C'est l'existence, enfin c'est pas l'existence, c'est la consistance d'une idéalité géométrique, par exemple. Ce qui fait vivre un individu qui va, je sais pas, donner sa vie à la patrie, comme on disait avant, ça ne se dit plus maintenant. Mais pendant longtemps, à l'époque de l'État-nation, conquérant, on donnait sa vie à la patrie. C'est une idée qui me dépasse. L'amour et la patrie, qu'est-ce que c'est que la patrie? Ça n'existe pas, la patrie. C'est une idéalité. Bon. Mais plus généralement, ça, c'est la structure du désir. Si je travaille pour ma famille, c'est parce que je travaille pour satisfaire les objets de mon désir. Et les objets de mon désir sont des objets qui n'existent pas. Ce sont des objets qui sont à un autre plan que ce qui existe, parce que ce qui existe, c'est ce qui est de l'ordre du calculable. L'objet du désir n'est pas calculable. Donc l'être humain, il est toujours, en réalité, dans son existence, pris entre la subsistance et ce qu'on appelle la consistance sur des choses qui n'existent pas, mais qui donnent leur prix à l'existence humaine, qui elle-même est une... L'existence humaine, c'est, je vous le disais en commençant, quelque chose qui ne cesse de transformer la vie, mais la transformer pour quoi? Pour quelque chose. Pour l'améliorer. Et cette amélioration, elle renvoie à un plan qu'on va appeler le beau, qu'on va appeler le vrai, qu'on va appeler le juste. Ce sont des choses qui n'existent pas. La vérité pure n'existe pas.
Il y a des choses qui, la culture est là pour nourrir en fait, les gens qui n'ont pas ce don exceptionnel vers...
La culture, c'est ce qui donne accès à ces consistances. Quand vous assistez à une pièce de théâtre, ou quand vous lisez un roman puissant, ou quand vous regardez un tableau, ça vous élève vers le sentiment de ces consistances. Et donc la culture de ce point de vue-là, elle a une vocation fondamentale à élever, tout simplement.
Et comment vous dites que la plupart des artistes préfèrent travailler pour une marque sous grec plutôt que de faire des choses gratuites qui élèvent justement, parce que
non, mais
pour
ça...
moi, c'est la majeure partie des gens n'ont pas du tout de velléité à changer de nom ou d'idée. Enfin, ils ont complètement oublié ce côté-là. En fait.
Oui,
parce
mais moi.
Ils ont eu un enfant, parce qu'ils ont envie de fumer, parce qu'ils ont envie de voyager. Et qu'est-ce qui se passe?
Moi, je pense qu'ils sont sans avenir, ces gens-là. Je pense qu'ils se trompent. Et je suis pas d'accord avec vous, d'ailleurs, pour dire que moi, je connais plein de gens qui n'ont pas du tout renoncé à ça. Heureusement. Par ailleurs, il faut pas opposer. Le problème d'aujourd'hui, c'est. Il faut pas opposer ce que je suis en train de vous dire, à savoir. Pour ça, cultiver les consistances, cultiver le caractère exceptionnel des œuvres culturelles. Qu'est-ce que c'est qu'une œuvre? C'est ce qui ouvre aux consistances. Et d'un autre côté, vivre et travailler pour... ça ne s'oppose pas. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, en commençant, la politique culturelle, c'est une politique industrielle. Les entreprises, la vie économique a besoin de ce dont je vous parle aussi. Il faut que maintenant, ça c'est évident que ce n'est pas une chose acquise et que c'est loin d'être une chose facile, mais il faut maintenant faire en sorte que le monde économique comprenne qu'il a intérêt à soutenir une politique culturelle au sens où je viens d'en parler et qu'il s'en nourrira. Que l'individuation de demain des marques, par exemple, ou des grands acteurs économiques passe par là. Et par conséquent, il ne s'agit pas, pour moi, de dire, il y a d'un côté des acteurs culturels, des artistes ou des intellectuels qui vont se vendre au monde économique et industriel, et d'autre côté, ceux qui vont rester voués à ce que j'appelle les consistances. Et... Non, pas du tout, c'est exactement le contraire. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut agencer ces choses-là. Mais ces agencements, ils doivent se faire à travers une politique publique, nationale ou européenne. Quand je dis publique, c'est en partenariat, à mon avis, très étroit avec le monde économique, parce que moi, je suis pour la collaboration avec le monde économique. Si on veut transformer le monde économique, collaborer avec lui, c'est absolument fondamental. Mais il faut que ce soit une politique à long terme. Il faut que ce soit une politique qui ne cherche pas le retour sur investissement dans les deux ans qui viennent. Ça, c'est pas possible.
Une sorte de mécénat, en fait.
C'est plus qu'un mécénat. C'est beaucoup plus qu'un mécénat. C'est une vraie... Nous sommes en train de vivre une révolution industrielle. Une nouvelle révolution industrielle. Ça veut dire qu'il faut que nous inventions une nouvelle société, de nouveaux modes de vie. Ça ne se fait pas ni en deux mois, ni en deux ans. C'est un changement de 20 ans. Il faut revenir à des visions comme celle de Jules Ferry. Jules Ferry a dit, maintenant, en 1880, il a dit qu'il faut faire muter la société. Et de 1880 à 1900, il a vraiment fait muter la société. Et en 1905, on est arrivé à la loi de la laïcité, qui était l'aboutissement de 20 ans de lutte de Jules Ferry. Eh bien, aujourd'hui, il faut... C'est ça l'enjeu de la transformation. Évidemment, si le monde culturel ne porte pas ce discours, ne l'impose pas aux hommes politiques, il n'y aura aucun Jules Ferry qui sortira.
Parce qu'on est en France quand même, et par rapport à ça, moi je sais qu'il y a des gens qui disaient voilà, j'avais envie de participer, peut-être ouais, conclure autour de cette idée-là, et il y a des gens qui carrément, à l'occasion de votre nom, on soit arrêté de me parler, ou soit on dit mais attends, c'est n'importe quoi, et, parce qu'ils n'admettent pas, et moi c'est un problème que j'ai aussi, c'est parce que je suis pour aussi ce mélange. Radicalise pas le truc, genre je suis une vierge et je vais. Et qu'est-ce que vous répondez à ces détracteurs là qui disent c'est délirant, il est pas tant révolutionnaire, mais en même temps il veut pactiser avec le câble, entre guillemets. Quel est l'argument béton pour dire à ces gens arrêtez de penser que voilà, vous êtes dans le monde de l'argent, vous allez être, être nourri par l'État-nation ou par une quelconque institution et vous devrez vous détacher complètement, vous aurez la liberté de ne pas du tout avoir de relation avec le commercial, l'entreprise.
J'ai pas compris, excusez-moi, vous avez
compris. Ces gens qui sont persuadés qu'il y a une éthique et qui sont dans un comportement radical, il y en a pas mal, par exemple, qui travaillent dans le logiciel libre ou les artistes nouveaux médias qui ne veulent pas, par exemple, utiliser Skype ou les artistes multimédia qui disent moi je travaille. Pas dans des musées, je travaille pas dans des musées grosses institutions, je veux pas travailler avec des marques, je reste comme à l'artiste maudit, mais presque. Quel est l'argument béton face à ces gens-là pour qu'ils disent si je veux changer le monde, il faut. Enfin...
Mais moi j'ai pas d'argument béton de toute façon. Hein,
qu'est-ce que vous répondez à ces attaques-là?
Non, mais moi, pour moi c'est pas des attaques. Je comprends ces points de vue. Je pense que les situations sont très très complexes et qu'il ne faut pas imposer en plus aux individus des modes, comment dire, il ne faut pas leur prescrire. Je pense que chacun a sa voix. En revanche, je crois que il faut avoir, je reviens à ce que je disais au début, les questions culturelles aujourd'hui sont des questions technologiques et industrielles. C'est absolument évident. Si par exemple vous parlez de logiciels libres, de gens qui travaillent dans la mer, ce sont des questions industrielles, des questions de logiciels libres. Il est fondamental, si les individus... Moi, j'ai pas de modèle tout près dans la tête hein, de tout ça, du tout. Hein. Sur ce plan, je suis très... J'ai des idées, et j'ai des propositions, mais je n'ai pas du tout la conviction d'avoir une solution à tout ça. Non, j'ai des hypothèses de travail, j'ai aussi des thèses, en particulier ce que je dis sur les médias sociaux, par exemple, c'est une thèse que je crois tout à fait pertinente, et en plus opératoire, c'est-à-dire permettant de faire des propositions très concrètes. Mais après, sur la manière dont on doit, par exemple, sur la question de la propriété intellectuelle, du logiciel, de Creative Commons, du droit d'auteur, etc., c'est très compliqué ces questions. Moi, j'ai pas de position très, très définie encore aujourd'hui. En revanche, je pense que les gens qui s'intéressent à toutes ces questions, il y en a maintenant énormément, doivent admettre qu'il faut poser ces problèmes dans le long terme, il faut intégrer les questions technologiques, il faut intégrer les questions économiques, il faut discuter avec les acteurs économiques et les acteurs technologiques, parce que si on veut faire des choses vraiment significatives dans ces domaines, il faut que des moyens très importants de recherche et développement soient mis en œuvre, avec des programmes à long terme, avec des masses très importantes de financement. Il faut pouvoir collaborer avec des grands laboratoires publics, mais aussi avec des grands laboratoires privés, C'est inaccessible. Mais comment ça, c'est inaccessible? Bien sûr que si, que c'est
comment
accessible.
Comment convaincre les entreprises d'investir dans ce genre de situation? La plupart du temps, ils ont peur ou ils ne comprennent pas?
Mais bien sûr que non, vous vous trompez complètement. Dans les entreprises, il y a des gens qui travaillent à court terme sur le domaine du marketing, il y a des gens qui travaillent à moyen terme sur le domaine du développement, et il y a des gens qui travaillent à long terme sur le domaine de la recherche. Bon. Tout le monde n'a pas le même discours dans une entreprise. Deuxièmement, les entreprises aujourd'hui qui font de la recherche aux États-Unis comme en Europe, elles font de la recherche sur des crédits publics. Et sur des crédits publics qui sont pilotés par la Commission européenne. Si on arrive à convaincre, et c'est tout à fait possible de le faire, les gens qui managent, comme on dit, les grands programmes de recherche publique européens, d'intégrer ces questions, eh bien les industriels les intégreront aussi, parce que tout simplement ils seront subventionnés pour le faire. Donc il faut que les artistes s'intéressent à ces questions, il faut que les artistes, les intellectuels, regardent la politique européenne de recherche et de développement, qui a des programmes sur plusieurs années, des programmes de moyen terme, il faut qu'ils revendiquent et qu'ils proposent des programmes à long terme, il faut qu'ils s'occupent de leur avenir, hein, il faut qu'ils fassent de la politique. Mais bien sûr que si, que c'est possible. Pourquoi vous dites que c'est pas possible? C'est complètement défaitiste de dire ça, et c'est faux en plus. Aux États-Unis, vous avez des gens... Je parlais de San Francisco, où la principale intelligence de ce qu'on appelle les technologies du web se trouve. Ils font se développer des choses comme ça dans la politique américaine. Et l'Amérique garde le leadership à cause de ça. Bon, à mon avis, sur un modèle qui n'est pas linéaire du tout et qui ne correspond pas à ce qu'il faut, qui reste un modèle pour une grande part issu du modèle fordiste, c'est-à-dire le modèle de la consommation. Même s'il y a beaucoup de gens qui disent des choses très très intéressantes aux USA. Et moi je pensais que c'était ça aujourd'hui encore que la pensée nouvelle se produit. Mais il est évident qu'il y a entre ces groupes-là et le tissu industriel américain un dynamisme extraordinaire qui n'existe pas en Europe. Et il faut reconstituer ça en Europe, c'est très très important. Ça ne veut pas du tout dire qu'il faut vendre son âme au capitalisme européen ou international. Ça veut dire simplement qu'il faut avoir les yeux en face des trous. Si on veut faire évoluer la situation, il faut pouvoir mettre en place des modèles technologiques nouveaux. Il faut donc que la recherche travaille sur ces modèles technologiques nouveaux avec nous. Et donc,
je ne sais pas si il y a le « il faut » et puis le moment où ça se fait, je comprends, pour moi ça paraît super lointain.
Mais c'est lointain parce que... Pourquoi est-ce que c'est lointain? C'est parce que personne ne s'en occupe.
Mais là, on est mal barré, alors, du coup, avec ce qui va se passer pour les élections à venir en France, là. Là, personnellement, quand j'ai écouté la fin de cette réunion là, donc, sur la culture, qui disait on rentre dans des années de résistance pas forcément courtes.
Quelle réunion?
La réunion organisée par Cassandre, avec tous les gens qui travaillent sur la culture, et se terminer là-dessus.
C'est catastrophique de parler comme ça. Il ne faut pas dire ça. Je veux dire, d'abord, parce que les résistances, ça n'a strictement aucun intérêt. Qu'est-ce que ça veut dire résister? C'est du bidon.
En résistance, c'est de la proposition.
Mais le problème, c'est pas
résister, c'est-à-dire ne pas craquer sous le poids de se dire.
Mais résister, ça ne mène à rien. Ce qu'il faut, c'est inventer. Et pour inventer, il faut penser. Et il faut penser artistiquement, il faut penser scientifiquement, il faut penser philosophiquement, il faut penser technologiquement, il faut penser économiquement, il faut penser politiquement. Il faut arrêter de se gargariser avec d'abord ces élections, évidemment que c'est très très important, mais l'essentiel n'est pas là.
Ça ne change rien.
L'essentiel n'a jamais été du côté des élections, l'essentiel est du côté de la société. Comment est-ce que les milieux qu'on appelle, à tort ou à raison, culturels, sont-ils capables de faire du social, de produire de la société? C'est ça la vraie question. Et c'est pas en résistant. C'est pas en résistant. C'est en ayant une vraie analyse de la situation. Et je vous le redis, le problème, ce n'est pas les intermittents du spectacle, ce n'est pas les subventions de la DRAC, ce n'est pas le budget du ministère de la Culture. Le problème, c'est comment est-ce que le monde culturel français et européen est capable de produire des véritables propositions nouvelles, attractives, qui intéressent les gens, qui intéressent les gouvernements, qui intéressent la Commission européenne, etc. Et ça, c'est tout à fait possible.
Parce qu'il y a un point ici sur cette phrase, résister, c'est créer, en fait, c'est tout.
Je n'y crois pas du tout.
C'est la même chose, proposer, c'est réfléchir, analyser, proposer un modèle. Parce que du coup, moi, je ne voulais plus du tout utiliser le mot politisé, mais utiliser le mot résister. En fait, vous avez plus de sens que dire je fais un travail politisé. Pour moi, ça n'a plus de sens.
Mais il faut inventer, il ne faut pas résister. La résistance, ça mène nulle part. Il peut y avoir il y a évidemment des choses auxquelles il faut résister. Il peut y avoir aussi des situations massives où c'est la résistance qui s'impose tactiquement.
Parce que Sarkozy, c'est une peine invisible quand même.
Non, mais d'accord, mais qu'il faille se battre contre Le Pen, ça, bien entendu. Mais c'est pas en résistant, c'est en inventant. Pourquoi est-ce que Le Pen domine avec ou sans Sarkozy? Pourquoi est-ce qu'il domine? C'est parce qu'il n'y a pas de discours politique crédible. Après, c'est tout. Ouais, si Le Pen domine, c'est parce que nous sommes nuls. Il faut quand même se dire ça une bonne fois pour toutes. Ouais. Il faut arrêter de dire que c'est parce que nous sommes nuls. Mmh. Et on se gargarise à dire le diable, Le Pen. Non, mais c'est nous, le diable. C'est notre nullité, le diable.
Mais Sarkozy, c'est la même.
Mais je m'en fous de Sarkozy. Je m'en fous de Le Pen. Mmh. Moi, ce qui m'intéresse, c'est nous. Qu'est-ce qu'on est capable de faire? Et aujourd'hui, il y a énormément de choses à faire. Énormément. Mais ce que je vois, c'est qu'on fait rien. Et ça, c'est apocalyptique. C'est très bien, par exemple, de dire pourquoi les candidats n'ont pas de politique culturelle. D'accord. Mais qu'est-ce qu'on leur propose comme politique culturelle?
C'est des
Mais non, c'est vous et moi.
Quel poids politique a Beaubourg, par exemple?
Non, mais Beaubourg, d'abord je ne vous en parlerai pas parce que je ne peux pas me mettre à parler de Beaubourg comme ça. Et deuxièmement, je fais des choses dans Arsène Industrialis. Arsène Industrialis, c'est un truc qui existe, qui fait des propositions.
Mmh. Donc on propose, comment on propose, du coup, si voilà, on fait ce genre de réunion, on fait, il y a des choses qui sont mises en dur sur papier. Qu'est-ce qui se passe avec ça? S'il y a des idées qui prennent corps, c'est comme ça que moi je vois en ligne, par exemple, les choses prennent corps, évoluent, bon, des gens se réunissent et tout. Mais pour que ça ait un vrai impact un peu plus massif,
Il faut bosser. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Moi, je fais des réunions Arsène Industrialis, par ailleurs, je fais des séminaires, j'écris, je lance beaucoup de choses, y compris ici. Et on bosse. Il y a des tas de choses qui se passent. Ça remonte petit à petit et avec le temps qu'il faut. De toute façon, il faut être lucide. Tout ça, il faut être tenace. Il faut être. Alors là, il faut être résistant au sens avoir l'énergie, être endurant, exactement. Il faut bosser, il faut réfléchir, il faut lire, il faut écrire, il faut discuter, etc. Il faut arrêter de ressasser toujours la même chanson. Parce que ça c'est fini, je veux dire, ça ne marche plus. Donc il faut discuter, il faut rencontrer des gens, faire des propositions, mais il y a plein de gens qui font ça. Moi, je ne pense pas que du tout que les choses soient bloquées. Par contre, qu'il y a dans certains milieux qu'on ait l'impression que c'est foutu, que tout le système. Oui, c'est vrai que par exemple tout le système que Jack Lang a mis en place qui a eu des aspects extrêmement bénéfiques. C'est terminé, il faut être lucide. Bon. Et c'est plus là que ça se passe. Et il faut travailler. Il y a plein de gens qui l'art industrialiste, il y a plein de gens qui participent à ces réunions et qui développent des choses. Donc voilà, maintenant il faut structurer ça de manière beaucoup plus importante. Il faut le structurer au plan européen, au plan international. Il faut aussi casser les coupures, la division intellectuelle et du travail, il faut arrêter de faire que les gens de théâtre se rencontrent avec les gens de théâtre, les gens de cinéma rencontrent avec les gens de cinéma, que les intellos se rencontrent avec les intellos, etc. Il faut discuter avec beaucoup d'autres gens.
Mais je pense que, pour moi, dans ma tête, il faut un déclic, cette histoire de la catastrophe, je pense que c'est le seul déclic. Parce que si vous prenez ces 99% de la culture, si vous la retournez comme une pièce, à un moment, il y a quelque chose qui se passe en eux qui cloche, je pense. Si on passe dans cette évolution à long terme, d'accord, qui est une sorte de mutation progressive,
Mais quand même, si on commence à s'engager sur ces voies-là, je pense que pas mal de gens ne vont pas comprendre.
Mais je crois, c'est moi qui ne comprends pas ce que vous dites, parce que c'est pas du tout comme ça que les problèmes se posent. Ouais. C'est pas du tout comme ça. Si vous voulez, il y a énormément de gens qui souffrent de la situation que je décrivais tout à l'heure. Simplement, ils sont dans la dénégation. Nous en sommes tous là d'ailleurs. Quand il y a énormément de gens, nous tous sommes dans cette situation. Parce que nous tous nous sommes affectés de près ou de loin par cette misère symbolique. Qui que nous soyons. Même les artistes ou les intellectuels les plus protégés, ils sont affectés par ça. Tout simplement parce qu'on discute avec les autres, avec leurs étudiants, avec leurs élèves, avec leurs collègues, etc. Leurs élèves, leurs collègues, etc. sont affectés comme ça. Et vous comprenez ? Excusez-moi une petite seconde, parce que... Allô ? Oui ? Oui ? Je peux vous demander une seconde, je vous rappelle dans une seconde, d'accord ? À tout de suite. Il faut que je vous laisse, parce que j'ai un rendez-vous très important téléphonique avec mon président. Voilà.
Attends.